Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.
BFM Academy 2010, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Dose, Eve Chégaray et Sylvain Aurébi.
Bonjour, bonjour et bienvenue pour la BFM Academy. Aujourd'hui, pas de candidats.com. Aujourd'hui, ce ne sont pas des candidats qui font des logiciels. Voilà, c'est des vieux métiers qu'on va découvrir ensemble. L'un fait de l'habillement et l'autre est plutôt dans l'univers des fragrances, vous allez voir. Et j'accueille Sylvain Aurébi, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Il est président d'Orientis, la maison mère des Tecousmi, des machines à café Jura. Eve Chégaray, bonjour.
Bonjour Nicolas.
J'ai la toute nouvelle carte d'Eve Chégaray, coach d'entrepreneur et décideur. Voilà.
Oui, c'est bien moi.
Qu'est-ce qu'on dit pour commencer cette émission? L'humeur du chef d'entreprise. On va commencer avec Sylvain Aurébi.
Alors, on se rapproche dangereusement du paiement de l'ISF.
Ça concerne
beaucoup de nos auditeurs. Alors je voulais dire, ne payez pas l'ISF surtout, donnez votre argent aux entreprises. Elles ont besoin de vous et il faut donner son argent. Ce qu'on paierait en impôts, on peut éviter de le payer en le donnant à des entreprises. Et il y a des systèmes, moi j'en ai bénéficié en tant qu'entrepreneur. L'année dernière, j'ai levé 2,5 millions d'euros grâce à Audacia, qui est le fonds
de Charles ISF Beigbeder. PME, donc.
Et à travers le dispositif ISF-PME. Et donc j'ai levé de l'argent. C'est formidable pour les entrepreneurs, mais pour que je puisse moi lever de l'argent, et que pour les entrepreneurs comme moi puissent lever de l'argent, il faut que des gens le donnent. Donc donnez votre argent aux entreprises plutôt que le donner à l'État, ça sera bien, bien mieux employé. Et voilà, donc moi je vais probablement refaire une tournée avec Audacia cette année encore. On a besoin que des gens viennent nous donner cet argent parce que l'économie française en dépend. Et injecter cet argent directement dans les entreprises est beaucoup, beaucoup plus intelligent que de le dilapider dans les fonds publics.
Allons-y, Eve Chégaray, l'humeur du coach.
Que dire ? Donner, comme dit Enrico, mais c'est bien aux entreprises. Bon, l'humeur du coach, elle est bonne aussi parce que notre finale BFM Academy commence à s'approcher, à pointer le bout de son nez, je sais plus parler français. Et on a évidemment, la grande réunion du groupe Facebook qui approche, qui va se tenir le 31 mai.
Donc le groupe Facebook, ce sont les amis de BFM Academy.
Et oui, voilà. Tous les anciens de BFM Academy et toute l'équipe qui bosse autour de ce projet depuis le début, depuis 2006. Donc pour tous ceux qui sont venus dans l'émission, à noter dans vos tablettes, et vous serez au courant bien sûr par le groupe Facebook, c'est le 31 mai à Paris.
Bonjour Eric Cantino.
Bonjour.
Et bonjour Valentine Pozzo di Borgo.
Bonjour.
BFM Academy 2010, uniquement sur BFM Radio.
Voilà, donc notre premier candidat du jour, Eric Cantino. Je vous laisse lui dire un peu qui il est, chez Gareth.
Oui, apprendre qui vous êtes.
On va faire un tour dans son business du côté du Finistère.
Alors Eric, vous avez 42 ans, votre entreprise est basée à Plouguerneau, c'est dans le nord du Finistère, vraiment au bord de la mer. Alors je devrais dire Eric et Virginie Cantino, hein, c'est votre épouse, et Gérard Pellot, votre associé, parce que parler de votre parcours, ça vous paraît insensé si on ne parle pas de l'équipe. Ça ne vous plaisait pas du tout qu'on parle que de vous. Alors, de l'époque avant, on dira juste que vous êtes de double formation, ingénieur, arts et métiers et designer. Vous passez 10 ans chez Valeo en France et à l'international, Mexique, Corée du Sud, Afrique du Sud. Plus tard, on vous retrouve directeur du supply chain chez Cartier Joaillerie. Puis, vous avez sévi comme directeur des opérations industrielles chez Arena, au siège en Italie. Hein, Arena, c'est les maillots de bain de Laure Manaudou, par exemple, non? Et puis, avec votre épouse Virginie, vous avez envie d'entreprendre loin des villes, démontrer qu'un entrepreneuriat solidaire est possible sur les côtes, en respectant vos valeurs, authenticité, être pionnier, vivre en famille, en tribu, ou encore préférer l'émulation à la compétition. Voilà ce qui, Eric et consorts, vous porte tout en haut de la vague.
www.oalen.com. H-O-A-L-E-N.com. Ça veut dire sel en breton. Et pourtant, il est dans le secteur de l'habillement. C'est bien ça, sel en breton.
C'est bien ça.
Bon, vous vendez donc des surfwear pour adultes. La différence avec vos concurrents est que vous vendez des produits pour adultes, là où les autres vendent du surfwear pour ados, visiblement, si j'ai bien compris. Vous placez l'adulte à partir de 30 ans et plus. En fait, vous avez constaté que l'âge des pratiquants des sports de glisse aquatique, il augmente. Et puis notamment, ceux qui ont fait l'âge d'or du surf autrefois, ils ont pris un peu de bouteille. C'est pas pour ça qu'ils ont arrêté d'apprécier le surf.
Pourquoi vous me regardez ?
Ils continuent aujourd'hui. Et donc, vous vendez vos produits dans des magasins principalement dédiés au surf et aussi des magasins multimarques spécialisés dans les sports de glisse et en priorité ceux qui sont installés installée sur les côtes. Alors, première question, Eric Cantino, à quoi ressemble un vêtement de surf pour un trentenaire comparé au même vêtement pour un, enfin, un vêtement pour un jeune de 20 ans? Et il y a une vraie différence, je ne vois pas pourquoi quelqu'un de 35 ans ne trouverait pas dans une boutique classique le truc qui lui va bien.
Alors la différence, elle est, alors forcément c'est un vêtement plus sobre, mais la différence elle est essentiellement sur les matières, sur les coupes. On essaye d'être un petit peu plus rassurant sur les coupes. Maintenant, voilà, les adultes ont aussi des besoins d'afficher certaines choses, des valeurs, afficher des messages parfois. Donc forcément, on n'est pas complètement différent des autres, c'est évident. Maintenant, on communique que sur les adultes.
D'accord. O'Allen, c'est un message en soi, le nom O'Allen qui apparaît sur les t-shirts, qui apparaît sur le t-shirt que
vous portez. C'est le sel, bon déjà ça veut dire sel
en
breton, ça veut dire sel de la vie, sel de la mer, c'est sel en breton. La Bretagne, c'est une toile de fond pour nous, mais c'est également un creuset pour pas mal de marins. Et aujourd'hui, quand on parle de la Bretagne, on parle souvent de la voile, mais on parle pas assez de tous ces sports de glisse, notamment la planche à voile qui est quand même née en Europe, en Bretagne, le kitesurf aujourd'hui et le surf qui est en train d'arriver vraiment de façon très forte. Et aujourd'hui, très souvent, les voileux, les gens qui font de la voile, il y en a vraiment beaucoup qui font aussi du kite, qui font aussi de la planche et du surf.
D'accord. Est-ce que vous parlez de O'Allen comme plus que des vêtements, comme d'un style de vie? D'ailleurs, c'est ce que vous décrivez en parlant du sel de la mer, du sel de la vie. Est-ce que le nom de O'Allen est rentré dans les esprits comme véhiculant des connotations, véhiculant un univers, véhiculant une époque pour les gens? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est fait, ça?
C'est encore un peu tôt. Ça fait 3 ans que la société est née.
Oui, mais quand on voit le O'Allen inscrit sur votre t-shirt, on l'a déjà vu. Enfin, je sais pas si c'est le cas de F. Chigaret et
oui,
de Sylvain Lévy.
Enfin, il y a un côté américain.
Ça dit quelque chose. Ou alors c'est très très proche de
ça. En fait,
d'une manière d'écrire courante aux États-Unis qui fait penser qu'on l'a déjà vu. C'est-à-dire
qu'aujourd'hui, on s'adresse. Enfin, le cœur de cible, c'est les vieux surfeurs. Donc, plus de 30, 40.
Oh, ils sont vieux.
Et 50.
Oh là là.
Et aujourd'hui, on a d'ailleurs des ambassadeurs de cette époque-là qui. On a un très bon ambassadeur qui s'appelle François-Xavier Morin, qui était une des égéries d'Oxbow également. À l'époque, en 1980 et 90. Voilà, donc aujourd'hui, nous, on s'adresse aussi à ces gens-là.
Quand on achète un vêtement de chez vous, en quoi on souscrit aux valeurs? Enfin, comment vous faites le lien ou comment le lien existe?
C'est ça la question.
Alors aujourd'hui, on n'est pas qu'un fabricant de vêtements, on organise des événements. Pas mal d'événements, on a des ambassadeurs, on essaye de véhiculer des idées, donc celles dont que vous avez énoncées un peu avant. Nous, ce qui nous plaît, c'est d'amener les gens dans l'eau. Voilà, on veut que les gens aillent dans l'eau. Réfléchissent à leur style de vie, à leur façon de vivre. J'entends souvent, je viens pas souvent à Paris, mais à chaque fois que je viens ici, j'entends les gens se plaindre et dire ah, j'aimerais bien aller là-bas. Bah, faites-le.
Viens.
Parce que voilà, vous parlez d'un style de vie, vous dites nous sommes plus que le Quicksilver des adultes. Donc il y a tout un univers que vous voulez véhiculer autour de ce nom, autour de ces vêtements. Et toute la difficulté, c'est de réussir à le véhiculer justement.
C'est très difficile. On est une toute petite entreprise. On fait à peu de choses. Donc on est plus connu dans le milieu chez les surfeurs et quelques passionnés de voile. Mais aujourd'hui, on parle à tout le monde. Et
d'accord.
On habille tout le monde. Aujourd'hui, on pouvait rentrer dans n'importe quel... Alors, le problème, c'est que dans les surf shops, rarement, le kidam ou la personne qui n'est pas liée au sport de glisse rentre aujourd'hui. Mais sur Internet et dans notre magasin de Plouguerneau, qui est difficile à trouver. Mais une fois que vous l'avez trouvé, ça se mérite. Une fois que vous l'avez trouvé, vous bénéficiez de tout ce qu'il y a autour. Et aujourd'hui, tout le monde achète nos vêtements, des enfants qui font partie aussi de notre univers, parce que quelqu'un qui a 30-40 ans a parfois des enfants.
Ça arrive. Questions, qui dessine, qui fabrique les modèles aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, on est très, très complémentaires, c'est assez collégial. Toute la partie dessin, des logos, tout le graphisme, c'est moi. La partie choix des styles, des coupes, c'est collégial. Et après, le suivi des collections, Virginie s'occupe un peu plus de
votre
la femme.
Quand même, Virginie Cantino, votre épouse,
exact.
Qui est l'une des cofondatrices.
Tout à fait, s'occupe plus de la partie femme et moi de la partie homme.
D'accord.
Et après, c'est quand même, on est une petite équipe, donc tout le monde oui. Amène sa touche.
Comment faites-vous pour vous faire connaître? Parce que vous dites que vous êtes dans une soixantaine de magasins aujourd'hui, vous êtes sur Internet. Comment est-ce qu'on va entendre parler de vous? Qu'est-ce que vous faites pour qu'on vous découvre?
On a des ambassadeurs, ça c'est très important. On peut en citer quelques-uns, Sébastien Josse, Bruno Sroka, qui sont des champions du monde, 2 fois champions du monde de kitesurf.
On les voit sur votre site.
On les voit sur le site, ils sont tous, les hommes et les femmes
plus
sont très beaux,
les uns que les autres.
C'est quand même incroyable. Et ils ont l'air d'avoir 12 ans alors qu'ils sont censés vendre.
Non, ils sont ridés. Ils sont ridés.
30 ans. Non, mais c'est très beau, hein, franchement. Mais en dehors de vos ambassadeurs, est-ce que... Alors, on parle de business ici. En dehors de ces ambassadeurs, comment vous faites pour vous faire connaître? Vous ne faites pas de publicité? Est-ce que vous vous montrez sur Internet? Est-ce que vous organisez des partenariats, des événements? Comment est-ce que ça
va mousser? C'est essentiellement ça, vous l'avez dit. C'est essentiellement ça. C'est qu'aujourd'hui, on est principalement l'image véhiculée par nos ambassadeurs. On en a beaucoup, on en a une vingtaine. Ces gens-là partagent nos valeurs. Ils le font parce qu'ils sont séduits. Tant que ça leur plaît, ils le font. Le jour où... Donc, c'est la séduction. Donc, on séduit, on essaye de séduire en permanence, que ce soit sur le site, sur les vêtements, sur notre petite boutique, sur nos magasins, nos surf-shops qui sont sur les côtes et qui vivent dans l'eau tout le temps, et ces ambassadeurs. Les événements, c'est important. On crée des événements un peu différents.
Vous avez aussi sponsorisé le Tour de Belle-Île, c'est ça ?
C'est tout nouveau. Voilà. Vous me l'enlevez de la bouche.
Bah
c'est
oui, tout nouveau. C'est écrit sur votre site, comme je l'ai lu, voyez-vous.
C'est le 8 mai, oui, c'est ça. Voilà. C'est le premier événement voile que l'on organise. Ben voilà, parce que ça fait partie aussi de notre univers.
Sur votre site, on trouve donc un certain nombre de t-shirts, d'articles, de vêtements, etc. Est-ce qu'en boutique, il y en a plus que ce qui est à vendre sur Internet ?
Alors, on a deux collections par an, à chaque fois de à peu près 80 pièces. Voilà, en plusieurs couleurs, bien sûr.
D'accord.
Donc forcément, ce qu'on retrouve dans notre boutique est beaucoup plus large. D'accord. Après, les surf shops font des sélections. Et sur le net, on met au fur et à mesure du temps que l'on a. D'accord. Je vous rappelle qu'on est 5. Donc,
Oui. Et à Paris, à Bordeaux, à Rennes, à Marseille, etc., est-ce qu'on vous trouve dans les boutiques?
À Paris, on est distribué chez Hawaii Surf, à Bordeaux, chez Escape. On a des boutiques qui sont...
Un peu partout en France.
Un petit peu partout, essentiellement sur les côtes.
Où fabriquez-vous tout ça?
Alors, en Bretagne, à Plouguerneau. Non, je plaisante. on fabrique dans deux usines en Inde. Alors, pour le côté un peu sympa de cette fabrication en Inde, parce que c'est jamais marrant de parler de ces fabrications loin de tout, mais c'est vrai que ces deux petites usines, chez qui on représente les 50% dans un cas et l'autre 20% de leur business, donc c'est des petites usines avec qui on a grandi, on a développé des traitements, des touchés, ça c'est vachement important, avec ces usines-là, et pour nous c'est...
Et vous les faites travailler à prix correct, etc.
Voilà, c'est très cher pour nous, mais évidemment, c'est que si on avait une usine en France, ce serait... c'est même pas une histoire de coût, c'est vraiment une histoire de trouver la bonne usine. Et la trouver, parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Enfin, je suis bien placé pour le savoir.
BFM Academy 2010, ils y croient. Mais croirez-vous en eux?
Voilà, oalen.com, les vêtements de surf pour ceux qui continuent à le pratiquer après 30 ans. 5 personnes aujourd'hui, 3 embauches si tout va bien en 2010, 400 000 euros de chiffre d'affaires, c'était en 2009, c'était 5 fois plus qu'en 2007. Et le double cette année, 800 000 euros si tout va bien, et même 1,3 million d'euros espérés en 2011. On marque une première pause, à tout de suite.
BFM Weekend. Tous les week-ends, BFM Radio vous emmène sur le terrain du sport business. Sport Éco avec Bruno Fraioli.
Les scandales qui ébranlent l'équipe de France de football peuvent-ils égratigner l'image des Bleus? L'ouverture officielle du marché des paris sportifs en ligne, Suntel, l'arrêt des sites pirates. Pourquoi le Vendée Globe lance une nouvelle course à la voile? Sport Éco, c'est tout le business du sport. Je vous retrouve samedi à 23h et dimanche à 14h.
Sport Éco, le magazine qui met le sport en valeur, uniquement sur BFM Radio.
Alors chérie, hein, ils disent quoi la hotline?
Ah bah là je suis en attente, il me passe un conseiller dans 2h23 minutes.
2h23 minutes?
Ouais, ouais.
Non mais moi là j'en ai marre, hein. Ça fait 6 mois que tu dois m'installer le wifi, hein, et j'ai un câble en plein milieu du salon, hein. Je vais acheter l'ordinateur individuel et ça ira plus vite.
Ah ouais, ouais.
Au sommaire ce mois-ci dans l'ordinateur individuel, toutes les solutions pour ne rien rater de la Coupe du Monde de football. 50 applications originales pour votre smartphone et un test géant de l'iPad, la tablette d'Apple. L'ordinateur individuel, dès à présent chez votre marchand de journaux.
À chaque instant, écoutez BFM Radio, la radio de l'écho.
D'abord, je suis fier de l'entreprise dans laquelle je bosse. Je comprends sa stratégie. Ensuite, je suis proche de mes managers. Et enfin, il y règne un certain esprit d'équipe.
Écoutez BFM Radio en numérique, sur le câble et le satellite.
Ces trois points, fierté d'appartenance, proximité managériale et esprit d'équipe, ils ne peuvent que partir d'en haut. Il faut que les grands patrons les initient.
Écoutez BFM Radio partout en France. À Nantes, 107.2.
Je crois qu'on a aujourd'hui envie de consommer différent. Les gens se pose véritablement la question de qu'est-ce que ça va m'apporter de consommer ce produit-là.
Ça, c'est vraiment une caricature. Écoutez BFM Radio sur votre téléphone au 3667.
34 centimes la minute.
Le saut technologique, c'est ce sur quoi il faut être extrêmement vigilant quand on est investisseur. Ça se paye souvent comptant.
Il faut des recettes supplémentaires, donc des points de PIB en plus.
Écoutez BFM Radio partout dans le monde, en live ou en podcast, sur bfmradio.fr. BFM Radio, toute l'écho, comme vous voulez.
BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.
BFM Academy 2010, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Dose, Eve Chégaray et Sylvain Aurébi.
Et tout de suite, on fait la connaissance de notre candidate du jour. Elle s'appelle Valentine Pozzo di Borgo. Alors, Eve Chégaray va nous dire un peu qui elle est. Puis moi, je vous rappelle, enfin, je vous explique un petit peu ce qu'il en est pour Quintessence Paris juste après. C'est le nom de l'entreprise.
Alors, Valentine, vous avez 26 ans. Votre entreprise est à Paris, rive gauche. Alors, vous, vous avez une maîtrise en sciences de gestion de Dauphine. Vous enchaînez avec un stage d'analyste en fusion-acquisition dans une banque d'investissement à Madrid. Puis, on vous retrouve à Pékin, en Chine. Votre mission, aménager des boutiques de luxe dans le nouvel aéroport, dans un nouveau terminal. Vous êtes en charge des parfums et des cosmétiques. Déjà. Un peu moins d'un an plus tard, vous êtes de retour à Paris. L'envie d'indépendance et de liberté vous titille, car vous avez aussi une passion dévorante, l'équitation. En 2008, vous décrochez le titre de championne de France des cavalières et vous montez, non pas le cheval, mais votre entreprise de marketing olfactif, Quintessence. Sachant que votre famille maternelle est une des références de l'industrie du parfum, on devine votre souci de qualité, d'éthique, mais à titre personnel, vous mentionnez aussi votre sens de la famille, de l'amitié, du travail, tout simplement.
Voilà, www.quintessence-paris.com. Je ne vais pas vous épeler quintessence-paris.com. Octobre 2008, installé à Paris, 7e arrondissement. Il y a deux concepts vendus par Quintessence. Le private labeling. Alors, je ne sais pas ce que c'est a priori le private labeling, Valentine Pozzo di Borgo.
Donc, vous allez
m'expliquer, parce que je vois écrit ça sur la fiche de présentation. Bon, je dis globalement de quoi il s'agit. Des produits parfumés sur mesure, des bougies, des parfums, des diffuseurs pour parfumer les points de vente, pour créer des identités olfactives. Ils appellent ça l'empreinte olfactive, l'image de marque olfactive, la signature olfactive. On rentre dans un magasin, ça sent une odeur particulière. Parce que voilà, le magasin l'a voulu.
Voir, ça sent bon.
Voir, ça sent bon. Et puis c'est typique de cet endroit-là et ça existe nulle part ailleurs. C'est une identité olfactive. Mais cette expression private labeling, c'est que ça signifie quoi ?
En fait, le private labeling fait partie du marketing olfactif. C'est toute la partie où, lorsqu'on a développé une odeur pour une marque, on leur développe des produits annexes qu'ils peuvent vendre dans leur point de vente, faire des cadeaux.
Ah,
c'est un label privé, voilà, c'est un truc privé pour une
marque. Labeling de label, quoi.
Donc, on définit la senteur qui va pour le client et on va lui faire toute une série de produits en tout genre qui vont reproduire. D'accord.
La bougie Nicolas Dose.
Voilà, donc ça, c'est le business de Quintessence Paris en direction des professionnels, les hôtels, les bijoutiers, les décorateurs, les coiffeurs, les boutiques de prêt-à-porter, la haute couture, bref. Et puis il y a la marque Quintessence Paris cette fois-ci, qui est une collection de bougies parfumées. Il y a 15 références, il y a un fichier de 1000 clients particuliers. Il y a aussi des parfums, des savons, des sels de bain, des parfums d'érambiant, des parfums pour marquer les événements. J'aime bien marquer un événement avec un parfum. C'est vrai que lorsqu'on a une odeur dans le nez, un souvenir olfactif, c'est à vie.
C'est la Madeleine.
C'est
quoi.
À vie. Non, mais c'est à vie, absolument. Elle est vendue où, cette marque Quintessence ?
Donc, la marque Quintessence, pour l'instant...
Je parle de la marque Quintessence Paris. Les gens qui nous écoutent, qui se disent, tiens, mais...
En fait, la marque est développée, mais particulièrement sur Internet. On a deux points de vente à Paris qui sont au Palais de Tokyo, la boutique du Black Block, et une autre boutique, Place Furstenberg, qui s'appelle Arti Dandy. Mais on est aussi beaucoup sur Internet.
Alors, Internet, quintessence-paris.com ?
Oui, exactement.
Mais sinon, d'autres sites ?
Non. Pour l'instant, que ce site-là.
Le site maison.
Oui. Bon.
Mais pourquoi Paris ? C'était pour avoir l'image de Paris comme Hermès Paris.
Non, c'est en fait.
Parce qu'on a l'impression du coup que vous êtes à Paris qu'à Paris.
Non, mais... en fait, nous on fait produire tous nos produits en France et le but. Tout est produit en France.
D'accord.
Et nous la signature Paris c'était l'univers du luxe et qui est quand même une référence. Voilà.
Je vous assure que là j'en ai sous le nez.
On est tous en train de flairer les bougies de Valentine.
Il en faut à l'algue.
C'est vraiment très impressionnant parce qu'il y a des vrais parfums. Quoi. C'est pas la bougie qui se veut vaguement parfumée en fait qui sent la bougie.
Non, alors le gros de votre business aujourd'hui c'est le private label cher à Nicolas.
Oui, c'est exactement.
Ça, hein. Et le produit phare c'est la bougie.
Le produit phare. Alors dans le private labeling il y a beaucoup. En ce moment on a beaucoup de demandes pour justement parfumer des points de vente. Et souvent la bougie parfumée est un produit d'appel une fois que les gens sont dans un magasin, ils ont cette odeur qui leur plaise. les marques nous demandent de développer un produit annexe qu'ils peuvent avoir en caisse.
Imaginons que moi je suis vendeur de voitures d'occasion professionnelle et j'ai envie de reproduire dans la voiture d'occasion l'odeur du neuf. Vous savez, l'odeur typique de la voiture neuve, elles sentent toutes la même chose.
Voilà.
Est-ce que vous allez pouvoir me fabriquer l'odeur de la voiture neuve alors que la voiture elle a 50 000 bornes et qu'elle sent plus du tout ça?
On retrouvera l'odeur.
Je vous jure que vous rentrez dedans, elle est d'occasion, vous avez l'impression qu'elle est neuve parce qu'elle sent cette fameuse odeur de synthétique
ou le vieux
immonde. Le vieux cuir, c'est dans les belles autos. Il n'y a pas du cuir dans toutes les voitures.
La bougie dans la voiture, c'est pas très stratégique non plus.
Évidemment.
On fait des diffuseurs pour voitures avec des odeurs personnalisées.
Et donc, l'odeur de la voiture neuve.
N'importe quel produit.
Moi, je voudrais savoir, qu'est-ce qui est difficile dans votre métier? Parce que vous avez l'air de survoler tout ça avec une grande aisance.
Ce qui est difficile, c'est de trouver le bon parfum.
Ah, c'est ça qui est le plus difficile.
Ouais.
Fabriquer, c'est trouver rien. Tout ça, les packagings, les contenants, les matières premières.
Non, c'est vraiment trouver la bonne odeur pour la marque.
Et alors, qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui va chercher? Qui va créer ces odeurs?
Alors, en fait, on travaille avec plusieurs parfumeurs.
Voilà.
Exactement. On travaille avec plusieurs parfumeurs ou nez. Il y a une vision familiale là-dedans parce que ces parfumeurs ont été formés par mon grand-père. Ils travaillent aujourd'hui dans plusieurs groupes de parfums. Donc, on ne travaille pas avec une société de parfumerie particulière.
Mais des personnes.
Ouais. Vous n'êtes pas des Mickey, quoi, du secteur de la parfumerie, très clairement.
Ensuite, donc, la difficulté, c'est de répondre aux briefs des entreprises.
Exactement.
Alors, est-ce qu'il y a toujours adéquation entre la senteur que vous avez créée et ce que cherche l'entreprise?
Alors, en fait, on a des briefs, des clients qui nous présentent des briefs qui ne sont pas du tout en adéquation avec
leur marque.
Avec leur marque. Par exemple, on a des marques qui partent d'un brief en nous disant il faut que ce soit androgyne, citadin, et qui vont finir avec une odeur exotique. Mais c'est leur perception de leur marque.
Et alors vous les éduquez, enfin vous faites de la pédagogie.
Alors évidemment. En fait, ce qu'on fait, c'est que quand une marque vient nous voir, on développe 5 ou 6 odeurs en fonction de ce qu'ils nous donnent. Et une fois qu'il y a une odeur qui a été choisie ou retenue, ici il faut la retravailler, l'améliorer, on la finit. Voilà.
Et c'est rentable ça de devoir en faire 5 ou 6?
Alors en fait, ça nous sert ensuite de base de données pour des marques qui viennent nous voir plus tard et qui ont un brief plus ou moins similaire.
Vous n'avez pas la RATP comme client?
Non.
C'est dommage. Alors ça, c'est vraiment
de... Alors, oui,
c'est les transports, donc entre les voitures et la RATP...
On a des briefs quand même plus glamour.
Vous savez,
beaucoup de maisons de luxe donc qui vous demandent des bougies ou des diffuseurs de
odeurs. Beaucoup de marques de luxe.
Par exemple, si je vous le fais comme ça, à l'arrache, pour l'univers d'Oalen, qui veut dire sel, ou pour l'univers de Kousmiti, vous auriez quel genre d'idée?
Alors, ça dépend. Là, c'est un univers marin, donc je pense que chaque bord de mer a une odeur différente. Mm-hmm. Et je pense que il faudrait recréer l'univers de la Bretagne, mais comme sa boutique est au bord de la mer,
ça va sortir le coup de Yaman. Hein.
Il a pas vraiment besoin. De produits.
C'est parfumé. Nature, alors.
Et là, c'est nature.
Et pour l'été, Kousmi, alors
Kousmi, je pense que ce serait une approche différente. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir, par exemple, le parfum du mois avec le.
C'est une idée, ça dit donc.
Ouais. L'odeur, par exemple, de un thé par mois.
Mais on a fait une bougie. On a fait une bougie Prince Vladimir. Qu'on a effectivement fait recréer par des gens comme Valentine. Et donc, on a pris Prince Vladimir, on leur a dit ce qu'il y avait dedans à peu près. Et ils ont recréé une bougie. Alors, ça a été un peu compliqué. Il a fallu plusieurs essais. Mais on est arrivé aujourd'hui, on a la bougie Prince Vladimir qui sent un petit peu comme le thé. Et c'est très agréable. Alors, la question, il faut dire ce que ça coûte. Là, demain, Oalen veut créer sa bougie. Combien ça va lui coûter le prix de revient d'une bougie?
Pour une bougie, alors déjà, toute la partie développement d'odeur, avant que vous choisissiez votre odeur, est gratuite, puisque ça nous sert
ça
nous alimente notre base. Et ensuite, le prix d'une bougie peut varier entre, disons, 8 et 15 euros, dépendant des options, un verre sur mesure, un verre classique, un verre coloré, une sérigraphie, une étiquette, un coffret cadeau ou une
boîte. Excessif, hein?
Non.
Et on vous les commande par combien? Parce que c'est vous qui vous chargez de la fabrication.
Pour le private labeling, on a des quantités minimum de 1000 au départ. Voilà.
Bon, c'est pas des quantités énormes
énorme.
Non plus. Hein, OLN va gérer ses 1000 bougies facilement.
Je pense que l'affaire est faite.
C'est plus un parfum.
On parle de bougies, il y a effectivement des parfums, des parfums corporels.
Oui, tout ce qui peut se parfumer.
BFM Academy 2010, ils y croient. Mais croirez-vous en eux?
Valentine Pozzo di Borgo avec Quintessence Paris. Elle crée des identités olfactives sur mesure pour l'intérieur des magasins notamment. Et puis elle vend des bougies parfumées au grand public sous la marque Quintessence Paris. Le site www.quintessence-paris.com. Dernière pause. Non, pas dernière pause. Avant dernière pause dans cette émission. On se retrouve d'ici quelques minutes. À tout de suite.
BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.
BFM Weekend. Le week-end sur BFM Radio, surfez avec l'atelier numérique. François Sorel.
L'atelier numérique, c'est chaque week-end toute l'actualité des nouvelles technologies sur BFM Radio. Cette semaine, gros plan sur les nouveautés dans le domaine de l'apprentissage des langues étrangères sur le web. Et puis, nous ferons un point sur les sites d'aide communautaire. Alors, rendez-vous en compagnie de toute l'équipe de l'atelier ce samedi, de 16h à 18h. N'oubliez pas non plus la rediff du dimanche, toujours de 21h à 23h.
L'atelier numérique sur BFM Radio, toute l'actu des nouvelles techno.
Et si cette semaine, on s'amusait un peu? D'abord, je vous ferai découvrir comment personnaliser votre page de démarrage Internet. Enfin, je vous montrerai comment réaliser des montages photos rigolos.
Attirant et tellement pratique. Microhebdo, c'est un contenu clair. Design, avec toujours plus d'actu, de tests et d'astuces pour 1,95€. Microhebdo, simplifiez-vous la vie.
Partout en France, BFM Radio, la radio de l'écho. À Limoges, 94.7.
La performance, c'est une chose, mais elle doit aussi s'exercer avec un souci d'équité et un souci d'éthique.
Découvrez toutes les fréquences de BFM Radio sur bfmradio.fr. À Caen, 107.1.
Et je pense que nous n'avons pas en France d'outils d'expertise suffisamment indépendants.
BFM Radio à Marseille, 93.8.
On rejoint toujours la morale.
Et est-ce que ça va servir à quelqu'un?
On est dans la forme.
Méfions-nous quand même des conséquences.
Mais rien de grave.
À la maison, ou en voiture, en vacances, ou au bureau, partout en France, BFM Radio, toute l'écho, où vous voulez.
BFM Weekend, 12h30. Les infos, Jérôme Tichy.
Et tout d'abord, le plan d'aide financière à la Grèce qui se précise. Il devrait officiellement être annoncé dès demain matin à Athènes lors d'un conseil des ministres exceptionnel. Selon Christine Lagarde, le montant total de l'aide apportée à la fois par le FMI et l'Union européenne devrait atteindre entre 100 et 120 milliards d'euros sur 3 ans. La ministre de l'économie s'exprimait tout à l'heure à la sortie de l'Élysée où s'est tenue ce matin une réunion consacrée à ce sujet autour de Nicolas Sarkozy et de François Fillon. Le chef de l'État, de retour de Chine, a fait savoir que lui et Angela Merkel avaient eu une conversation téléphonique dans la matinée et qu'ils étaient déterminés à agir vite pour aider la Grèce après la semaine difficile traversée, vous le savez, par les marchés boursiers à propos de ce dossier. J'ajoute que les ministres des Finances de l'Eurogroupe se réuniront demain après-midi à Bruxelles pour détailler les conditions de l'aide européenne apportée à Athènes. Athènes qui, en contrepartie de cette aide, devra consentir à un très sévère plan de rigueur, des mesures qui passent très mal auprès de l'opinion publique. Plusieurs incidents entre manifestants et forces de l'ordre ont émaillé ce matin les traditionnels défilé du 1er mai, notamment dans les villes d'Athènes et de Salonique. Plus calme, a priori, les défilés de la fête du travail en France. Après l'unité syndicale affichée en 2009, cette année, la situation sera beaucoup plus disparate, même si les deux plus importants syndicats, la CGT et la CFDT, défileront côte à côte avec la FSU, l'UNSA et Solidaire. Force ouvrière manifestera à part. Au programme, donc, 284 rassemblements dans toute la France sur fond de réforme annoncée des retraites. Le cortège parisien débutera à 14h30, place de la République, pour se rendre vers la place de l'Opéra. Cette même place de l'Opéra qui ce matin était le point de ralliement du défilé du Front National comme chaque 1er mai. Un défilé pas comme les autres puisqu'il s'agit du dernier pour Jean-Marie Le Pen en tant que président de son parti. Le leader historique du FN doit passer la main début 2011. Dans le reste de l'actualité, bien sûr, la marée noire aux portes du sud-est des États-Unis. Le gouvernement américain a décrété l'état de catastrophe nationale, ce qui permet l'utilisation de moyens venant de tout le pays. Il faut dire que 800 000 litres de pétrole s'échappent chaque jour du puits situé sous la plateforme BP qui a coulé avant-hier. Et selon les gardes-côtes, 2 nouvelles fuites auraient été décelées, ce qui pourrait considérablement aggraver la situation. Actuellement, la superficie de la nappe de pétrole est estimée à plus de 1500 km2. Et après la Louisiane, déjà touchée, la marée noire devrait concerner la Floride, l'Alabama et le Mississippi. De manière plus légère, c'est parti pour l'exposition universelle de Shanghai, la plus grande de l'histoire, selon les organisateurs. Rien qu'aujourd'hui, on attend 500 000 visiteurs, malgré les heures d'attente devant les différents pavillons nationaux. En football, la finale de la Coupe de France, PSG-Monaco ce soir au Stade de France. Les deux équipes qui ont raté leur championnat vont tenter de sauver la saison. Une victoire en Coupe de France donne accès à l'Europa League. Et puis en championnat, la plupart des matchs de la 35e journée de Ligue 1 aura lieu demain. Mais dès hier soir, les deux leaders, Marseille et Auxerre, se sont neutralisés 0-0. Le match avait lieu au stade de l'Abbé Deschamps. Et puis un mot de rugby pour terminer ce flash avec la première demi-finale de Coupe d'Europe. Elle opposera cet après-midi à partir de 16h45, le stade toulousain au tenant du titre, l'équipe de Leinster. Merci d'écouter BFM Radio en ce 1er mai, il est 12h32. jusqu'à 13h. C'est la suite de BFM Academy, toujours en compagnie de Nicolas Dose.
BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.
BFM Academy 2010, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Dose, Eve Chégaret et Sylvain Aurébi.
Voilà, c'est à vous de voter. Dans 30 minutes, pas avant, dans 30 minutes, vous irez sur le bfmradio.fr pour choisir entre notre candidate du jour ou notre candidate du jour. Vous aurez d'ailleurs à cette occasion la possibilité de voir à quoi il ressemble, puisque vous le savez, il y a le making-of, les coulisses de la BFM Academy, tourné comme chaque semaine depuis le début de la saison par Lucie Brasseur, la fondatrice de Twideco TV, la chaîne d'actualité, la chaîne web d'actualité économique des entrepreneurs du Loiret et de la région centre notamment.
BFM Academy 2010, la mouche du coach.
Bah, elle est partout, Lucie Brasseur, elle est sur internet, elle est sur papier, on la trouve partout. La mouche du coach, c'est avec Eric Cantino, qui est donc notre premier candidat cette semaine. Il a créé OALEN, les vêtements de surf pour ceux qui continuent à le pratiquer après 30 ans. En fait, il s'est rendu compte que la plupart. Il s'est rendu compte que la plupart des marques avaient principalement des vêtements pensés pour les ados, des trucs super étroits et super fluo qui ne vont pas forcément correspondre à quelqu'un de 35 ans.
Je confirme. Mais c'est pas uniquement pour les gens qui pratiquent le surf, rassurez-moi. Oui, c'est pour tout le monde, c'est vous et moi. Quand on veut avoir l'air un peu.
Il y a des combis. Voilà.
Alors, j'ai pas vu beaucoup. Il y a des combis.
On commence à faire un petit peu de néoprène, mais pour l'instant, on n'a pas une énorme innovation. On fait très médicament. On travaille avec du néoprène japonais, avec du néoprène. Par contre, peu de choses, mais de qualité. Des néoprènes japonais qui sont les meilleurs.
D'ailleurs, vous dites que vous voulez vous lancer au Japon, hein? Développement international, on se dit, il va aller en Italie, il y a pas mal de côtes. Non, il va au Japon.
Il y a pas mal de côtes aussi. Le Japon, c'est 2,5 millions de surfeurs, âge moyen 30 ans. Voilà. Et beaucoup de similitudes entre le Japon et la Bretagne. On va peut-être faire rire certains.
Pas du tout.
Ce sont des marins, des pêcheurs. Ce sont des pêcheurs, des marins.
Du poisson.
Exactement. Voilà. Beaucoup d'algues, beaucoup de récoltants d'algues. Ouais. Mon grand-père, mes grands-parents étaient goémoniers, donc pareil, c'est pas des nez, mais des goémoniers qui ramassent donc des odeurs très fortes. D'accord. Et quand on va au Japon, on retrouve ces odeurs. C'est
Deux, trois mots encore sur l'entreprise avant de passer la parole à Sylvain Aurébi-Chégaret. Donc, oalen.com, c'est l'adresse internet. OALEN.com, qui veut dire sel en breton. Si tout va bien, 800 000 euros de chiffre d'affaires cette année, et peut-être un peu plus d'un million en 2011. Trois fondateurs, donc Eric qui est avec nous, son épouse Virginie, et puis Gérald Pello, et huit investisseurs derrière, qui quand même se sont lancés dans l'aventure d'OALEN, où il nous a expliqué dans la première partie de l'émission que derrière ces vêtements, derrière cet univers d'habillement, il y avait quand même un style de vie, il y avait un état d'esprit. Voilà. C'est à vous, si F. Cigarès, Sylvain Rébi.
Alors je prends la parole.
Allez.
Je suis allé évidemment visiter le site oalen.com. Très beau site, hein. Franchement très beau, ça donne envie. Magnifique, il y a des photos superbes, il y a des gens beaux, on l'a dit tout à l'heure. Les hommes, les femmes sont tous magnifiques, les vêtements sont très beaux, ça donne vraiment envie. Franchement, chapeau, parce que il y a une vraie ambiance, on sent une vraie marque.
Il y a de la musique.
Alors ça c'est un peu agaçant parce qu'il faut trouver l'endroit où interrompre couper le son, mais c'est en bas, je vous le dis tout de suite. Quand vous irez sur le site, en bas il y a un petit.
En même temps, c'est pas du hard rock, donc
c'est pas non plus du hard rock, mais c'est pas les Beach Boys non plus. Bon. Et donc très très beau. Franchement. J'étais bluffé, ça donne envie. On sent un univers de marque. Donc c'est parfait. Les vêtements sont très beaux aussi. La présentation est parfaite. Franchement, j'ai trouvé ça tout à fait exceptionnel. Alors j'ai quand même deux critiques parce que sinon ça servira à rien que je sois là. D'abord, vous vous dites breton. Alors il y a plein de noms bretons que je ne comprends pas sur le site, les noms des vêtements et autres. Mais alors tout votre truc est en anglais déjà. Donc ça m'a un petit peu agacé. Pourquoi est-ce que vous parlez anglais sur votre site alors que vous êtes breton?
Bon, on essaye de faire les deux, le plus possible, mais aujourd'hui, on est distribué en Australie, par exemple, on a un magasin en Australie, donc c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, on est distribué là-bas, c'est parce qu'ils ont compris ce qu'on faisait sur notre site, et c'est les premières choses qu'ils ont fait.
Et vous avez un blog qui est en français ou en anglais, je me souviens.
Alors le blog, c'est un super mauvais exemple parce qu'il n'est pas au point aujourd'hui.
D'accord. Voilà, il est là.
Mauvaise pioche.
Faces of OALEN, ça s'appelle.
Oui, c'est les.
Il n'est pas à jour, mais c'est sympa.
Visages de OALEN, c'est essentiellement qui relate la vie de nos ambassadeurs et de nos investisseurs, puisque ce sont également de bons ambassadeurs. Oui. Ce blog est à améliorer.
Alors vous avez tout un tas. Ça s'appelle The Salt. Saltwater Players Company. C'est bien.
Les joueurs de salé.
Il y a un très bon univers de marque. Alors, un deuxième bémol, parce que encore il faut que je le dise, on retrouve quand même beaucoup l'univers Abercrombie & Fitch, que je connais bien parce que j'ai des enfants, des filles qui cherchent toujours des vêtements là-dessus, qui m'en demandent tout le temps. Et on retrouve quand même, hein, je trouve une petite copie, même dans l'architecture du site, la façon de présenter les vêtements et les vêtements eux-mêmes, il y a quand même une inspiration, disons, lourde d'Abercrombie. Alors, est-ce que vous avez la capacité à être vous-même créateur de trucs un peu nouveaux, pas type Abercrombie?
Oui, alors, je comprends tout à fait la remarque, c'est tout à fait légitime. D'ailleurs, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on se dit qu'on va pas être les meilleurs du monde. On n'est pas des grands créateurs, on le revendique pas. Par contre, on essaye de prendre ce qui se fait de bien à droite à gauche. Donc, vous allez trouver les marques qui nous influencent aujourd'hui sont Patagonia, Océan, Aigle, Abercrombie, Hollister, ces marques. On essaye de prendre un petit peu partout où on trouve. On fait un mélange. Après, on essaye de le rendre un peu breton. Ou français, je dirais, et avoir notre touche à nous. Alors, notre touche à nous, c'est l'authenticité de nos événements, la façon dont on fait notre marketing et ce qu'on vit, parce qu'on vit vraiment ce que l'on vend aujourd'hui. D'ailleurs, je vous invite à venir passer un week-end là où la société.
On viendra.
Après, je dirais que un des points importants, c'est les matières. On travaille beaucoup sur les matières. Et ça, c'est peut-être, je dirais, c'est plus ce qui me plaît dans cette comparaison avec Abercrombie. Parce qu'au niveau des marquages, on essaye petit à petit de s'éloigner un petit peu de ces trucs-là. On aimerait faire des vêtements qui soient beaucoup plus sobres. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, comme c'est le démarrage de la marque, viennent acheter du logo. Et on vend dans les surf shops. Et les gens, voilà, c'est une nouvelle marque. On veut que le logo soit.
Éric, justement, vous le dites, vous essayez de faire ça un peu breton. Moi, ce que j'ai apprécié justement dans votre univers, c'est que bon, vous expliquez où vous êtes, mais finalement, et le fait d'utiliser de l'anglais, ça donne ça met en avant ce côté communauté qui est, alors un est à Hawaï, l'autre est je sais pas où, en Australie, etc. Les frontières et les ou au côté au sens national ne comptent pas tant que ça. Bon, c'est très porteur de sens d'identité. Moi, où j'ai été un peu frustrée, c'est pour le passage à l'achat. J'ai le clic relativement facile, je sais très vite enregistrer ma carte bancaire en ligne. J'ai pas trouvé que une fois qu'on est sur les pages où on peut choisir quelque chose, etc., qu'il y avait une ergonomie qui poussait vraiment à ça. Et alors, de façon très binaire, je me suis dit, mais finalement, ce qui compte le plus pour vous, c'est de promouvoir cet état d'esprit, cette qualité de vie, cette façon d'entreprendre, cette grande communauté. Et comme si le fait de vendre passait un petit peu au second plan. Qu'en est-il donc?
C'est une bonne question. Aujourd'hui, on est bien sûr qu'on a besoin de vendre. Ces vêtements nous permettent de faire ce que l'on aime. On a un de nos credos, c'est nous surfons, nous ramons, nous naviguons, nous pêchons et nous créons ce que nous portons. Voilà, donc aujourd'hui, on crée des vêtements pour les porter. On n'est pas en autonomie maximum puisqu'on les fait faire en Inde. À côté de ça, c'est vrai que pour nous, le plus important, c'est d'amener les gens dans l'eau. Donc, c'est vrai que la partie vêtements, mais c'est quelque chose qui doit s'améliorer. On recrute aujourd'hui pour améliorer cette partie commerciale. En même temps, le fait de ne pas être trop commercial, également de ne pas être partout, ça nous permet, et tant qu'on pourra réussir ça, de continuer à pouvoir vivre avec des ventes pas partout, pas pour n'importe qui, pas n'importe comment, on essaiera de le maintenir.
Oui, mais enfin, quand même, le but dans toute cette histoire, c'est de vendre partout, de vendre à tout le monde et à n'importe qui, non, quand même.
Alors, pour l'été,
votre business, là, c'est quand même de gagner de l'argent.
Notre business, c'est de gagner de l'argent. Aujourd'hui, voilà, moi, je viens de l'entreprise et le profit, c'est important. Mais c'est aujourd'hui, l'objectif de cette entreprise, c'est de faire une entreprise dans laquelle tout le monde vit bien, donc avec suffisamment d'emplois pour que on soit pas débordé, ce qui est le cas un petit peu aujourd'hui, et puis que les investisseurs de cette marque et de cette petite société s'en tirent correctement.
Mais voilà, mais ce que j'ai vu, alors vous annoncez des chiffres que vous espérez pour les années à venir, j'ai pas senti beaucoup d'ambition dans vos chiffres et je sens pas beaucoup d'ambition dans ce que vous nous dites là aujourd'hui. Est-ce que vous êtes un entrepreneur? Est-ce que vous avez vraiment envie? Est-ce que vous faites plaisir à faire votre marque et à regarder ça et avoir des beaux produits? Ils sont vraiment très beaux, je répète. Ou est-ce que vous avez envie d'être un entrepreneur, de faire grossir votre boîte et de gagner de l'argent? Je sens pas trop cette ambition.
On n'a pas envie de gagner de l'argent.
Ah oui, bon. C'est clair.
Et vos investisseurs sont contents, ils le savent, on leur a appris aujourd'hui.
Vous voulez en vivre, mais voilà.
Non, ce qu'on veut, c'est on veut absolument faire en sorte que ce soit une petite entreprise dans laquelle les employés gagnent leur vie, les investisseurs n'en perdent pas. Et le jour où, où on fait un petit peu de profit et qu'on commence à respirer, Je pense que tout le monde sera content. Aujourd'hui, les investisseurs sont tous des passionnés, n'ont pas mis énormément d'argent, ça ne va pas les défausser. Mmh. Et quelque part, ce qu'ils viennent chercher dans cette entreprise, c'est une aventure.
Depuis octobre 2006, vous ne respirez pas, Eric Cantino ?
Non, pas beaucoup.
BFM Academy 2010, ils y croient. Mais croirez-vous en eux ?
Voilà, on marque une dernière pause dans cette émission avant de vous laisser la liberté d'aller voter sur bfmradio.fr. Dans un instant, Valentine Pozzo di Borgo.
BFM Weekend.
Auditeurs de BFM Radio, la Tribune vous propose une offre exclusive et indispensable. Pour 10 euros par mois, recevez votre quotidien chez vous par porteur avant 7h30. Accédez à tout le site latribune.fr et désormais, consultez l'intégralité de votre journal depuis votre mobile. Mais ce n'est pas tout. Pour vous, auditeurs de BFM Radio, la Tribune vous offre 2 semaines d'abonnement supplémentaire. Pour profiter de cet avantage exclusif, appelez tout de suite le 0800 534 534 et dites BFM Radio. La Tribune, le quotidien des décideurs. Appel gratuit depuis un poste fixe, voire conditions sur latribune.fr.
BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.
BFM Academy 2010, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Dose, F. Chégaret et Sylvain Aurébi.
Et Valentine Pozzo di Borgo avec Quintessence Paris, c'est tout de suite.
BFM Academy 2010, la mouche du coach.
Voilà, donc quintessence-paris.com, suivi précédé du 3W, bien sûr, c'est l'adresse internet. Je vous rappelle les deux principales activités de l'entreprise. Il y a le private labeling, c'est-à-dire que tout l'univers parfumé des clients, notamment l'ambiance olfactif d'un magasin, et puis d'ailleurs toute une série de produits dérivés par rapport à cette ambiance olfactive qui aurait été créée, inventée et mise en place par Quintessence Paris, puis après des produits parfumés qui sont vendus par Quintessence Paris au grand public, principalement des bougies, mais également toute une série d'autres petites choses qui pimentent la vie, les savons et sels de bain, les parfums d'air ambiant, donc vendus sous la marque Quintessence Paris. Aujourd'hui, il y a Valentine et sa mère Sandrine qui sont à l'origine de l'entreprise, 3 personnes, 2 embauches si tout va bien dans les mois qui viennent ou dans l'année qui vient, 177 000 euros de chiffre d'affaires pour un peu plus de 5 000 euros de profit. C'était sur la saison 2008-2009 et l'objectif 2010 est déjà atteint. Hein. Pourtant, l'année n'est pas finie, mais donc Quintessence Paris a déjà passé les 350 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà, Valentine Pozzo di Borgo, F. Chégaret, Sylvain Aurébi.
Bah, écoutez, moi, honnêtement, je ne sais pas par où commencer parce que j'adore votre univers. Je trouve que vous en parlez avec une simplicité et en même temps beaucoup, beaucoup de clarté. Je n'arrive pas exactement à voir où peuvent être vos difficultés. Vous nous l'avez dit, trouver la bonne senteur, je crois que c'est une difficulté qui se surmonte. Alors effectivement, on peut peut-être se demander où vous voulez aller finalement. De la même façon qu'on a demandé à Eric quel genre d'entreprise il voulait être, qu'est-ce que vous voulez avoir réussi ou réussir avec Quintessence ?
Alors nous, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, notre problème, c'est de ne pas avoir de point de vente ou d'avoir une visibilité.
À bon entendeur,
ouais.
Alors.
Oui, parce que ça, déjà, il y a des gens qui viennent chez nous et qui nous demandent où sont notre boutique ou nos bureaux pour que les gens puissent venir découvrir
alors,
nos odeurs.
Alors, quand ils viennent chez vous, ils viennent où, vous voulez dire
C'est-à-dire que pour l'instant, on travaille
à la maison. Oui. Et les gens viennent frapper chez vous.
Exactement.
Effectivement, acheter des produits qui ont une odeur en ligne, c'est quand même encore un truc assez compliqué.
Alors en fait, il faut en fait avoir le premier réflexe, c'est comme les tissus pour les vêtements, il faut qu'ils puissent sentir une fois la bougie. Ensuite, ils recommanderont sur Internet, et d'ailleurs c'est plus simple puisqu'ils n'ont pas besoin de se déplacer. Mais il faut faire ce premier contact avec la clientèle et on a vraiment besoin d'un point de vente, d'une visibilité.
Alors idéalement, il vous faudrait quoi ?
Idéalement, il faudrait en fait un showroom où on puisse à la fois faire découvrir notre univers d'identité olfactif et à la fois nos produits parfumés.
Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas encore financer aujourd'hui, c'est ça ?
C'est quelque chose qui, d'ici septembre, trouvera...
pour être faisable. Voilà. C'est-à-dire qu'en septembre, vous aurez les fonds
On a les fonds, mais on veut se préparer pour septembre.
Bon, mais moi je suis très bluffé. Valentine a une histoire qui me parle parce qu'elle a un arrière-grand-père qui a fondé une entreprise qui s'appelle Givaudan, c'est son nom, un grand-père, et elle est d'une lignée de gens qui ont créé des choses, et elle continue ça, c'est formidable. Moi, je suis d'une famille de gens qui faisaient un certain nombre de choses aussi dans toutes ces matières premières, le café, le thé, le cacao. J'ai racheté une entreprise, Kousmiti, qui fait du thé depuis 1867, où il y a l'arrière-grand-père, le grand-père, le père, donc tout ça me parle. Je trouve ça formidable qu'à son âge, à 26 ans, elle se lance là-dessus. C'est très bien. Il y a une très belle marque là aussi. Le site est très bien fait. La marque est très jolie. Elle donne vraiment envie d'acheter. Alors effectivement, on n'a pas senti, mais ce qu'on a senti aujourd'hui sent très bon. Donc il y a un ensemble
c'est
qui
de
est,
qualité,
qui est
ça,
parfait,
c'est sûr.
Qui est de qualité, des beaux packaging. Elle a travaillé pour des gens comme Baume et Mercier, Disneyland, Hello Kitty, Pierre Frey, qui est une très belle maison de tissus. Et voilà. Donc il y a un ensemble qui est magnifique. C'est tout à fait prometteur. La question que je me pose, et c'est la crainte que j'ai pour Valentine, c'est qu'il y a des gros intervenants dans ce marché-là. Il y a des gens comme Maessa qui sont vos concurrents. Il y a tout un tas de gens qui font ça depuis des années, qui ont énormément de moyens. Comment, qu'est-ce qui va vous différencier? Qu'est-ce qui va faire que vous allez réussir dans les années qui viennent à vous différencier de ces gens? Quel est votre plus?
Alors nous, clairement, on a mis la valeur ajoutée sur la qualité des parfums qu'on choisit. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des concurrents comme Maessa qui travaillent sur des gros marchés pour des grandes marques. Mais pour vous donner un ordre d'idée, on travaille avec des parfums qui coûtent entre 80 et 200 euros le kilo. Nos concurrents travaillent sur des parfums aux alentours de 55 euros.
Mais est-ce que c'est si important que ça? Je fais l'avocat du diable.
Oui, en fait, c'est important. C'est que nos parfumeurs, en fait, arrivent à s'exprimer parce qu'on ne les contraint pas par le budget.
Par le prix, voilà. Oui.
Mais le client final, il est si connaisseur que ça?
C'est-à-dire que la personne qui va faire brûler une bougie chez lui va le sentir aussi. Il y a une vraie différence entre un bon parfum.
Et puis même pour la diffusion, par exemple pour une bougie, il y a des odeurs qui ne diffusent mal en bougie, on va pas les utiliser. Mais c'est vrai que la qualité du parfum s'en ressent beaucoup.
Mais ça, c'est pour le private label. Mais les gens, les grandes maisons comme Diptyque, l'artisan parfumeur, ils utilisent de bons parfums.
Ah oui,
donc vous avez en face de vous des gens qui sont quand même.
Oui.
Et alors, il va falloir trouver un truc pour vous différencier.
Il faut trouver sa place.
Alors,
qu'est-ce que
vous faites
pour ça?
Ce qu'on a fait à l'intérieur de Quintessence Paris, mais de la marque en nom propre que nous avons, on fait travailler des artistes qui révolutionnent un peu le milieu de l'odeur. Ils nous donnent leur brief, on leur crée une odeur et ils créent un contenant totalement sur mesure. Et totalement, là, on a travaillé avec un artiste qui s'appelait Eric Schmidt. On a été faire des vases qui ont à peu près 40 cm de haut, qui ont été faits en bohème. Chez des souffleurs, entièrement sur mesure, qu'on vendait à travers un réseau de galeries d'art, parce que justement c'est pas le même marché, et qui a tout à fait trouvé sa place, mais c'est un produit qui coûte aux alentours de 550 euros. Il y a 4 kilos de cire, et là on est en train de faire notre deuxième édition avec un sculpteur qui s'appelle Igor Ustinov, où là on est passé sur un univers avec du métal. Donc ça nous permet de créer des différences et un buzz autour de la marque, de trouver des nouveaux produits.
Et alors vous allez participer au salon Maison et Objets, vous avez déjà participé?
On a participé, oui. On a participé
depuis
septembre.
C'est une façon de vous faire connaître aussi.
Exactement.
Et Valentine, comment ça se passe de travailler avec sa maman au quotidien? On reçoit souvent des familles entrepreneuses.
Hein. Alors, ça se passe plutôt bien. Alors déjà, on n'est pas dans le même lieu physique. Donc déjà, c'est très bien. Ma mère a beaucoup d'énergie. Et en fait, on est très complémentaires. Et donc, personne ne marche sur les plates-bandes de l'autre.
Mais vous avez organisé votre vie professionnelle en fonction de ce que vous savez de l'une et de l'autre? Comment vous avez structuré ça?
En fait, ma mère est une commerciale née. Et donc, elle s'occupe de toute la partie commerciale. Et moi, plutôt de toute la partie développement de produits, de trouver un concept, une idée, voilà. Donc on ne se marche pas dessus.
Alors qu'est-ce qui fait les packaging? C'est vous?
Ça c'est moi. Ouais.
C'est vous qui faites les packaging pour toutes les marques? En fait,
vous
proposez une identité visuelle.
Il y a certaines marques qui ont déjà des identités visuelles et qui ont des services en interne. Et on propose aussi un service pour des gens en externe. Et où là on travaille avec un designer maison.
Et Valentine, qu'est-ce que cette diffusion, enfin, ce passage dans BFM Academy peut vous apporter concrètement?
Ben justement, notre souci est bien la visibilité, donc je pense que c'était l'opportunité de faire connaître nos produits et nos services surtout, parce que je pense que l'univers du marketing olfactif est de plus en plus présent et que les marques le prennent de plus en plus en considération.
Vous avez un site de vente en ligne ?
Oui.
Quintessence-paris.com.
Donc finalement, presque tout type de marque, puisqu'on a vu qu'on est sur des budgets qui sont vraiment pas
et tout
pas
type de produits.
Insensé.
Nous, on a une ville qui est venue nous voir et qui voulait qu'on parfume la ville pendant un festival.
Possible. Oui, c'est techniquement possible.
On trouve toutes
avec
les techniques possibles.
Avec des diffuseurs.
On a des marques de voitures qui viennent nous voir parce qu'il y a une thématique de fidélisation au travers de l'odeur. Mmh. Et les marques ont besoin de fidéliser leurs clients. Donc, par exemple, pour les marques de voitures, on crée des diffuseurs avec une odeur personnalisée et où les gens vont aller chercher les recharges chez
le concessionnaire.
Chez le concessionnaire.
Exactement. Donc, ils doivent revenir.
Moi, tiens, je vais me racheter une petite Porsche là, en même temps que la bougie.
Oui. J'aime beaucoup l'odeur Porsche, mais je préfère l'odeur Ferrari.
On peut en faire des choses avec le nez, quand même.
C'est formidable.
Ouais.
Alors, une petite chose, dans votre fiche, vous parlez de vos points faibles, et dans vos points faibles, vous avez mis la jeunesse. Et je voudrais vous dire que la jeunesse n'est pas un point faible.
Non, ouais.
Alors, peut-être le manque d'expérience encore, mais pas la jeunesse.
Jeune, c'est bien.
Et puis, quand on est jeune, on achète des vêtements de surf, et quand on est un peu plus âgé, on achète des vêtements au Allen, n'est-ce pas ?
Oui.
BFM Academy 2010, le 26 juin, il n'en restera qu'un.
Il a fait la synthèse de l'émission du jour, donc c'est à vous maintenant, à vous de voter sur le bfmradio.fr pour Eric Cantino avec O'Allen, O'Allen.com, ou Valentine Pozzo di Borgo avec Quintessence Paris, quintessence-paris.com. Comme chaque semaine, pour refermer cette émission, on fait le point sur nos précédents candidats. Alors, ils sont deux. Ils sont deux aujourd'hui. Je vais vous rappeler leurs noms si vous êtes des fidèles de cette émission, parce qu'il faut quand même remonter au mois de mars 2007. Souvenez-vous, Grégory Arinx, avec Le Traiteur du Marais, était venu nous voir dans cette émission. Celui qui avait décidé, avec un de ses copains qui rentrait des États-Unis, qu'ils allaient concurrencer les Potel et Chabot et les Le Nôtre. Et on est en 2010, il est toujours là. Hein. Et puis, avec lui aujourd'hui, Emmanuel Kotsoyanis, qui était venu nous voir, lui, en novembre 2008, début novembre 2008, avec les dîners d'Héloïse, le dîner à domicile préparé sur place par un grand chef. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus à deux, F. Chégaray ?
Eh bien, ils sont venus à deux parce qu'ils ont des choses à faire ensemble et même un super projet. Alors, c'est une fusion, c'est une association. Expliquez-nous, ça s'appelle comment ce que vous faites ensemble ?
Emmanuel, allez-y.
Alors, avant tout, nous tenons à remercier vivement la BFM Academy qui nous a permis de nous rencontrer.
Grâce à notre fameux groupe et nos fameuses soirées réseau.
Grâce à ce groupe où effectivement nous sommes rentrés séparément et ressortis main dans la main. Tout a commencé par un partenariat et aujourd'hui je pense qu'on peut parler d'association. Puisque en fait nous avons décidé de travailler autour de nos complémentarités, de nos compétences respectives pour élargir notre activité, la mienne, enfin celle des dîners d'Héloïse de chef cuisinier à domicile et celle de Grégory de traiteur événementiel autour d'un groupe agissant de manière plus globale dans l'événementiel avec une activité qui serait la location de salles, une activité qui serait l'organisation de réception de traiteurs événementiels et enfin, son complément inévitable sur le marché des particuliers, l'organisation de repas gastronomiques à domicile avec les dîners d'Héloïse.
Donc en fait,
vous fédérez l'offre des dîners d'Héloïse avec l'offre du traiteur du Marais pour avoir une offre globale. C'est bien ça, Grégory Arinx ? On prend vos deux métiers et on les met dans une même maison.
Et ça fait trois pôles.
Oui, en fait, on veut vraiment globaliser les trois activités. Et ça part tout simplement de l'activité de chef à domicile où on a une vraie complémentarité avec la partie donc gastronomique, les chefs qui sont de très haute qualité dans cette société.
Qui viennent de restaurants étoilés, hein.
Voilà, comme vous l'avez déjà perçu lors de la précédente émission. Et on va mutualiser ces équipes afin de développer un nouveau schéma marketing qui sera adapté lui-même aux traiteurs. Avec la nouvelle salle que nous ouvrons.
Ah voilà, j'allais y venir, parce que ça parle de lieu tout ça, enfin ça parle de lieu.
Donc là, ça parle de lieu, c'est très physique. Concrètement, on s'est retrouvé initialement autour d'une idée...
Emmanuel Kotsoyanis qui parle là, parce que c'est pas évident de forcément...
On s'est retrouvé initialement autour de cette idée de mener une activité en commun. Le premier point de jonction immédiat était autour du traiteur, et puis finalement on a bondi sur une opportunité d'ouverture de salle au Palais Royal, une grande salle de réception.
Donc on parle de Paris, là, Palais Royal à Paris.
On parle de Paris, voilà. Une grande salle de réception permettant d'organiser des manifestations de 500 à 800 personnes, servant de support à une activité de traiteur événementiel. Et cogitant autour de nos complémentarités, on s'est dit que c'était dommage de s'arrêter à ce qu'on faisait déjà et qu'il fallait à un moment donné apporter davantage de sens. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un manque cruel sur le marché de l'événementiel aujourd'hui, à Paris en particulier, mais plus globalement un petit peu partout, qui était la prise en compte de quelque chose qui était prise en compte partout, sauf dans le secteur de l'événementiel, qui était le développement durable. Aujourd'hui, on s'est dit, tiens, des salles de réception, il y en a partout, elles sont grandes, elles sont vétustes, elles consomment énormément de déchets, énormément d'énergie. Trouvons-nous autour de quelque chose qui nous parle à tous les deux, qui est la création d'un groupe dans l'événementiel, avec différents métiers, celui d'organisation de réception, celui de location de lieux, qui prennent en compte de manière globale un maximum d'aspects liés au développement durable.
Alors, cette salle, elle va être équipée de façon à être écolo ?
Alors, l'idée principale est partie des déchets, comme le signalait Emmanuel. Donc,
les déchets.
Voilà, quoi. C'était l'idée principale.
Ouais.
À savoir que, comme il le rappelait, on va être sur une capacité d'accueil de 800 personnes. Et si on le raisonne sur une année en nombre de réceptions, on peut considérer qu'on va retraiter, trier 70 tonnes de déchets par an. Minimum. Donc l'idée est venue de là et ensuite on a donc avancé sur le projet en y collant tous les travaux d'éco-conception qui seront nécessaires pour qu'on puisse avoir, en plus du tri des déchets, une éco-gestion intégrale.
Bon, la fusion de vos deux entreprises, ça veut dire qu'il y a un nom qui reste, les deux noms restent, comment ça fait très concrètement? Il y a un patron, il y a deux patrons, enfin comment ça marche?
C'est quoi le
concrètement
nom?
Je crois que c'est ce qui me manquait.
En un mot, parce qu'on a fini là, mais...
Concrètement, je crois que les rôles sont bien répartis et qu'on va vraiment pouvoir travailler.
Alors, c'est les traiteurs de Léolise.
Alors, concrètement, on crée une nouvelle société de traiteurs, une nouvelle marque qui va s'appeler Palais Royal Le Traiteur, une nouvelle salle qui va s'appeler Salon Valois, qui va être l'une des premières salles éco-responsables à Paris et, si possible, la première d'un ensemble qui sera lancé par nous dans les années à venir.
Quelle ambition.
Les dîners d'Héloïse restent les dîners d'Héloïse.
C'est génial.
Il y a des vraies perspectives de développement, encore une fois, à travers ce regroupement. Et je crois qu'on pourra revenir sans doute d'ici 3-4 ans si vous nous réinvitez, avec un groupe qui sera encore plus puissant, certainement.
Eh bien, ouais, bravo en tout cas, voilà, la BFM Academy fait des petits.
Merci.
Cette semaine, ça se passe entre Eric Cantino avec Coalen, donc les vêtements de surf, et Valentine Pozzo di Borgo pour Quintessence Paris. C'est à vous de jouer sur le bfmradio.fr. À la semaine prochaine.
Maintenant, votez sur bfmradio.fr pour élire le vainqueur de BFM Academy 2010.